Vous écoutez D4B, il est midi. Retrouvez l'info en France et dans le monde avec Radio France Internationale.
Il est midi ici à Paris, 13h à Kiev. Bonjour à tous.
Karine Bellichat.
À la une, les drones d'attaque russes ont ciblé en deux vagues un centre commercial en Ukraine hier. Une demi-heure après la première frappe, la seconde a visé les services de secours, selon Kiev. Une attaque très meurtrière dans la ville natale du président Zelensky, faisant au moins 16 morts et 130 blessés. Lundi, l'Ukraine s'apprête une nouvelle fois à célébrer son indépendance en état de guerre. Pragmatique, le nouveau président chilien d'extrême droite a relancé le dialogue avec le Venezuela. Un consul chilien a été nommé à Caracas. Une opération nécessaire pour José Antonio Kast, qui convient d'expulser plus de 300 000 Vénézuéliens en situation irrégulière. Et puis 7 000 km en moins, 10 jours de gagnés et en évitant le Moyen-Orient, un porte-container sud-coréen a choisi de passer par le Nord pour gagner l'Europe. Séoul veut faire de l'Arctique une voie commerciale régulière, malgré le risque d'accélérer encore la fonte des glaces. Deux nouvelles frappes russes ont visé la capitale ukrainienne la nuit dernière. Des bombardements alors que le pays est en état d'alerte maximale à deux jours des célébrations de son indépendance acquise en 91. Hier, une attaque de drones dans la ville natale du président Zelensky a fait au moins 16 morts et 130 blessés. 9 personnes sont toujours portées disparues. L'Union européenne a dénoncé une terreur planifiée par Moscou. Le récit de ces dernières heures avec notre correspondante sur place, Emmanuel Chaz.
À Kiev, les frappes ont commencé vers 1h30 du matin où Krzaliznitsia, la compagnie des chemins de fer, confirme ce matin la mort de l'un de ses employés en précisant qu'une des frappes a eu lieu au même moment ou même quelques secondes avant le déclenchement de l'alerte aérienne. Au cours de la nuit, d'autres infrastructures ferroviaires ont été endommagées dans la région d'Odessa. Ces frappes interviennent au lendemain d'une attaque contre le plus grand centre commercial de Kryvyi Rih dans le centre du pays. Une double frappe, deux drones lancés à 30 minutes d'intervalle pour tuer un maximum de personnes. Selon un rapport de l'ONU, cet été est le plus meurtrier pour l'Ukraine depuis 2022. En juillet, au moins 437 civils ont été tués, plus de 26 000 blessés, 30% de plus qu'au mois de juin et 70% de plus qu'en juillet 2025. Ces chiffres reflètent le coût humain des pénuries d'équipements d'interception aérienne auxquelles l'Ukraine fait face en ce moment. Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
Affrontement verbal entre Recep Tayyip Erdogan et Benjamin Netanyahou hier. Le bureau du Premier ministre israélien a qualifié de dictateur antisémite le président turc qui lui a dénoncé des manœuvres mesquines à des fins électorales. Après la décision d'Ankara d'émettre un mandat d'arrêt international contre le dirigeant israélien dans le cadre d'une enquête sur l'interception de la flottille pour Gaza, cet échange tendu intervient aussi après le bombardement d'une base militaire en Syrie imputé à Israël, à quelques dizaines de kilomètres de la frontière turque. Les négociations s'étaient éternisées, mais les deux parties continuaient d'afficher leur optimisme. Au final, aucun accord n'a été conclu entre le Canada et les États-Unis, chacun se renvoyant la responsabilité de l'échec, un échec qui se concrétise par l'entrée en vigueur de nouveaux droits de douane de 50% contre certains produits canadiens, dont le ciment ou les crosses de hockey, 20 milliards de dollars au total, soit environ 5% des exportations du Canada aux États-Unis. Ottawa promet déjà une riposte au dollar près. Après deux ans de tension, le Chili vient de nommer un consul au Venezuela. Santiago et Caracas avaient rompu leurs relations diplomatiques après le refus du président Gabriel Boric de reconnaître les résultats de l'élection vénézuélienne qui donnait officiellement Nicolas Maduro vainqueur. Une détente pragmatique initiée par le nouveau président chilien d'extrême droite, José Antonio Kast. Les explications de Naila de Rouanet.
Gabriel Boric avait qualifié de frauduleuse l'élection présidentielle de 2024 au Venezuela, taxant au passage le régime chaviste de dictature. En représailles, Nicolas Maduro avait fermé l'ambassade de Santiago et retiré tout son personnel diplomatique, laissant ainsi des milliers de Vénézuéliens vivant au Chili sans accès aux services consulaires et dans l'impossibilité de régulariser leur situation migratoire auprès des autorités chiliennes. La désignation par le président José Antonio Kast d'un un consul à Caracas marque donc une nouvelle étape dans le rapprochement entre les deux pays. L'administration Castro avait en effet déjà annoncé il y a quelques semaines la reprise de contact avec la présidente par intérim, Delcy Rodriguez. José Antonio Castro souhaite surtout pouvoir discuter avec elle du sort de ces Vénézuéliens sans papier au Chili et qui sont sous le coup d'obligations de quitter le territoire. Le président chilien avait promis pendant sa campagne d'expulser les plus de 330 000 migrants en situation irrégulière dans le pays, parmi lesquels de nombreux Vénézuéliens. Naïla de Rouanet, Santiago, RFI.
L'armée a évacué plus de 600 personnes par hélicoptère dans le sud du Pérou, où un important axe routier est bloqué à la suite d'une coulée de boue et de pierre. Un glissement de terrain provoqué par de fortes pluies. Les opérations d'évacuation doivent se poursuivre aujourd'hui. La première semaine de négociations s'achève à la COP17 consacrée à la lutte contre la désertification en Mongolie, à Oulan-Bator. Les discussions vont se poursuivre la semaine prochaine sur des sujets comme la sécheresse, les migrations ou le pastoralisme, mais pour le moment, pas de grande annonce. Une première semaine marquée par la volte-face des États-Unis, s'opposant notamment au principe de l'égalité homme-femme et de la participation des peuples autochtones. Les changements climatiques sont particulièrement visibles cette année. Les canicules se sont multipliées dans l'hémisphère nord, ce qui expose encore davantage les agriculteurs. Une très réputée organisation scientifique américaine alerte, Stéphanie Schuller, un lien direct est établi entre vagues de chaleur extrême et plus grande exposition aux pesticides des travailleurs agricoles. Sans surprise, les plus précaires sont les plus touchés.
Quand le thermomètre grimpe, la nature des pesticides épandus sur les cultures agricoles change rapidement, ils s'évaporent.
Cela signifie que l'air dans le champ et autour des cultures présente une concentration beaucoup plus élevée de pesticides sous forme d'aérosols. Un travailleur qui se trouve dans ce champ à ce moment précis est donc exposé aux pesticides.
Explique Omania Nagaswamy, chercheuse au programme Alimentation et Environnement de la Union of Concerned Scientists.
They're breathing in the pesticides that's in the air.
D'une part, le travailleur inhale les pesticides présents dans l'air et d'autre part, il y est exposé par la peau. Parce que quand il travaille sous une forte chaleur dans les champs, sa température corporelle augmente. Il commence à transpirer, les pores de sa peau se dilatent, ce qui augmente l'absorption cutanée. Donc, les voies d'exposition à un pesticide se multiplient quand il fait très chaud à l'extérieur.
Les intoxications aux pesticides révèlent une injustice climatique. Aux États-Unis, elles ne sont recensées que rarement, car les travailleurs agricoles sont souvent des migrants, sans papiers, sans protection sociale et donc sans accès à un suivi médical.
Après la Chine, la Corée du Sud s'essaie à son tour à la route arctique. Un porte-container doit partir du port de Busan aujourd'hui direction l'Europe. Sauf qu'au lieu de passer par le sud et le canal de Suez, le navire sud-coréen va passer par l'Arctique au nord. Une route maritime amenée à se développer du fait du réchauffement climatique et de la fonte des glaces. Malgré le risque d'accélérer la surchauffe, c'est le gain de temps et d'argent, Nicolas Fellmann, qui est mis en avant par Séoul.
Les bénéfices sont évidents pour la compagnie sud-coréenne. Un trajet plus court de 7000 km et 10 jours de gagné. C'est une économie de carburant et donc d'argent. En passant au nord par l'Arctique, le porte-conteneur évite aussi le canal de Suez et la mer Rouge, théâtre de tensions. Le président Lee Jae-myung a fait de cette nouvelle route maritime une priorité.
Alors un petit problème technique, le navire concerné doit rejoindre les ports européens de Felixstowe en Angleterre, Rotterdam aux Pays-Bas et Gdansk en Pologne avant de revenir. La durée totale du voyage est estimée à environ 45 jours. Un mois après l'incendie historique de Fontainebleau, les sentiers de la forêt française de région parisienne rouvrent au public aujourd'hui. 80% du massif est désormais accessible, dont certains blocs d'escalade mondialement connus. Mais la plus grande prudence est demandée aux promeneurs. Interdit de fumer ou d'allumer un barbecue à cause de la sécheresse. La flore reste très vulnérable et le feu peut encore circuler sous terre et ressurgir des jours, voire des semaines plus tard. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Désolée pour ces petits problèmes. technique. Tout de suite, écho d'ici, écho d'ailleurs, avec Bruno Faure sur l'antenne de RFI.
Ce samedi, retrouvez Jessica Taïeb.
Bon appétit à toutes et à tous sur D4B. La suite des programmes, c'est maintenant.
En immersion au zoo de la Palmyre. Dernier épisode en immersion au zoo de la Palmyre. Nous retrouvons Pierre Caillé, directeur du parc zoologique de la Palmyre, qui nous parle pour terminer ce programme des grandes missions des parcs zoologiques modernes et en particulier celui de la Palmyre.
Je vais directement évoquer les trois grandes missions qui sont consacrées dans l'arrêté du 25 mars 2004 qui régit le fonctionnement des parcs zoologiques en France. Et il y en a une quatrième qui englobe en fait toutes les autres. Ces trois grandes missions principales, c'est la pédagogie, la conservation et la recherche. Donc quand on parle de pédagogie, c'est la sensibilisation du public. Avec plus de 500 000 visiteurs par an, c'est autant de personnes qu'on peut toucher, émerveiller et donc éveiller à la conservation de ces espèces, sur les menaces qui pèsent sur elles dans le milieu naturel. Donc c'est ce public-là qu'on touche, on sert de porte d'entrée, si vous voulez, à l'écologie, à la conservation. Ça touche également les scolaires, en fait. On a un gros travail avec les scolaires, avec des ateliers pédagogiques. On accueille plusieurs milliers de scolaires par an. Et pour plusieurs d'entre eux, on va faire des animations par groupe de 15, donc petits groupes volontairement, pour justement avoir la meilleure qualité possible en termes de pédagogie, où on va avoir des personnes extrêmement bien formées, des médiatrices scientifiques, qui vont les accompagner justement pendant une heure à peu près, au plus près des espèces pour comprendre comment elles vivent, comment elles interagissent, par exemple les jeux sociaux chez les capucins à poitrine jaune, une espèce d'Amérique du Sud, en lançant des pommes de pin justement pour voir un petit peu comment fonctionne la hiérarchie et justement quel comportement on doit avoir pour ne pas la perturber, cette hiérarchie. Comment ça fonctionne et là encore, comment on travaille avec elles en parc zoologique pour qu'elles soient au mieux par rapport à leurs besoins en milieu naturel. Et on a évidemment toujours un message sur les questions d'écologie et de conservation avec les scolaires à la fin. Donc ça, c'est pour la partie pédagogie. Pour le grand public, ça se traduit déjà par avoir des présentations cohérentes, c'est-à-dire que quand on s'attache à parler biodiversité, à parler même le langage naturaliste, en fait. On va présenter des espèces de manière cohérente. On va essayer de les présenter dans un environnement qui est proche possible avec les contraintes qu'on a de leur milieu naturel, mais aussi de présenter des espèces ensemble qui peuvent cohabiter dans le milieu naturel. Par exemple, on a un espace avec tapir, nandou et capybara, qui sont trois espèces de forêt amazonienne que l'on peut retrouver ensemble. On va éviter de mixer des espèces qui ne se croiseraient jamais dans le milieu naturel. L'idée, c'est qu'on voit un biotope avec des espèces ensemble, que ça soit le reflet de ce qu'on retrouve dans le milieu naturel, pour être là encore cohérent en termes de message pour le public. Il y a pour chaque espèce, évidemment, des informations réglementaires, c'est tant mieux, sur les menaces qui passent sur elles, sur leur mode de vie, sur la classification aussi, qu'est-ce que c'est comme espèce, son régime alimentaire, espérance de vie, etc. Donc c'est quelque chose auquel on est attaché et on veut vraiment renforcer ce volet-là avec des animateurs, parce que c'est vraiment par là que passe l'émotion et surtout la connaissance, en fait. Je veux que lire un panneau, c'est bien en général, mais beaucoup passent à côté, ou en tout cas, l'exploitent pas suffisamment, alors qu'un animateur, clairement, on voit tout de suite la différence. Donc là, on va travailler là-dessus. Conservation, donc deux volets sur la conservation, sur cette deuxième grande mission. La conservation in situ, que vous avez sûrement déjà bien évoqué avec Florence, donc le soutien au programme dans le milieu naturel. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais il y a la conservation également ex situ, donc ça veut dire en dehors du milieu naturel. Et pour cela, les zoos jouent le rôle d'élevage conservatoire. C'est-à-dire que en cas de pépin dans la nature, on a des animaux que l'on peut réintroduire. Et pour pouvoir être réintroduit, ça veut dire qu'il faut une pureté au niveau de l'espèce, éviter les hybridations, mais également avoir une grande diversité génétique pour qu'au sein de cette population, il y ait une viabilité dans le temps. Si on la remet et qu'en fait, il y a des tares génétiques, parce qu'on a reproduit le père avec la fille, et ainsi de suite, sur plusieurs générations, ça ne va pas fonctionner. et c'est pas le but. Donc du coup, on a des vraies contraintes en termes de gestion de population, nous, au sein des parcs européens, pour avoir la gestion la plus fine au niveau génétique possible dans ce cas de cette conservation in situ. Donc, ça veut dire aussi des choix qui doivent être faits dans les espèces, quelles sont les espèces pour lesquelles il y a les plus gros enjeux en termes de conservation. Donc ça va guider le plan de collection, à savoir les espèces qu'on va présenter au parc. Est-ce qu'il y a un intérêt pour les visiteurs, mais est-ce qu'il y a un intérêt pour la conservation de cette espèce? C'est pour ça qu'on va plutôt privilégier des espèces menacées. Malheureusement, des espèces qui sont peu menacées à l'heure actuelle peuvent aussi le devenir. Donc voilà, il ne faut pas les écarter non plus. Mais on va travailler, par exemple, sur des espaces mixtes. Si je prends la volière des ibis chauves avec les damans des rochers qu'on avait historiquement avec, on est sur deux espèces qui cohabitent très bien. Les damans des rochers, ça ressemble un peu à une marmotte. C'est pas du tout de la même famille. Mais voilà, pour donner un petit peu l'idée, la taille, de la corpulence. Et donc, les ibis chauves, ce sont des petits échassiers qui font à peu près 2 kilos avec un long bec. Et ils vont justement être très opportunistes, très omnivores dans leur régime alimentaire. Donc, damans des rochers peu menacés, ibis chauves très menacés. Et donc, on s'assure d'avoir deux espèces qui cohabitent bien pour être sûr que les damans des rochers n'aillent pas gêner la reproduction de cette espèce pour laquelle il y a un plus fort enjeu. Donc vraiment, ça nous guide dans le choix des espèces que l'on présente au parc. On a une gestion qui est collégiale au niveau européen avec un référent par espèce. Donc on s'inscrit dans le cadre de programmes d'élevage. Ce n'est pas nous qui faisons ce que nous voulons avec nos animaux. Mais lorsqu'on souhaite justement avoir de la reproduction ou au contraire des contraceptions qui doivent être mises en œuvre, ça se fait sur les directives d'un coordinateur qui généralement est mis à disposition par un parc, souvent un vétérinaire, un scientifique, qui a une vue globale sur l'ensemble des animaux détenus dans les parcs zoologiques en Europe. Et en plus, ce travail-là, il s'étend de plus en plus. Donc, on est dans le cadre maintenant du One Plan Approach. C'est-à-dire qu'on va intégrer dans ces populations-là les sanctuaires également, dans le milieu naturel, pour justement avoir, pour des raisons génétiques, entre autres, des brassages de populations, d'individus, pour avoir les populations les plus viables possibles, mais également pour transmettre les connaissances qu'on a en parc zoologique aux sanctuaires, puisque c'est beaucoup plus simple de suivre des individus, de faire des essais en parc zoologique, et ensuite, fort de cette expérience-là, de pouvoir le reproduire dans le milieu naturel. Par exemple, il y a eu des essais sur des nids pour les calaos à Bornéo. Les grands arbres de la forêt primaire ont été rasés, coupés pour justement exporter le bois exotique. Et ces grands oiseaux que sont les calaos avaient des difficultés pour trouver des nids, toujours. Une des solutions qui a été apportée, ça a été de créer par l'homme des nids artificiels. Mais le problème, c'est qu'il a fallu beaucoup, beaucoup d'itérations afin de trouver le nid qui était adéquat. Parce qu'en fait, la nature étant bien faite, ces grands arbres, justement, qui avaient des infractivités, avaient permis d'avoir une hygrométrie qui restait constante, une température aussi très stable, et donc de lisser, justement, ces variations environnementales et de permettre une bonne incubation des œufs par les parents. Et donc, on a fait énormément d'essais en parc zoologique avant de trouver le système qui serait le plus approprié. Voilà, donc ça, c'est des choses ensuite qui sont redéployées en miniaturel grâce à l'expérience qu'on a en parc.
Ça intéresse quand même beaucoup les gens. Moi, je connaissais plus la conservation dans le zoo que ce que m'a appris effectivement Florence Pérouse sur les programmes extérieurs. Je n'avais pas forcément conscience qu'un zoo participait aussi aux programmes extérieurs sur tous les territoires, que ce soit en France ou ailleurs.
Autre exemple d'ailleurs, qui date un petit peu plus celui-ci, mais sur les orang-outans, toujours justement, les orang-outans qu'on a en parc, les orang-outans de Bornéo en l'occurrence, c'est cette espèce, on a pu tester sur eux des implants radio-émetteurs pour pouvoir tester du matériel permettant de les localiser. Et donc ça, on a pu faire les essais, voir justement s'assurer que ce n'était pas trop invasif, que l'orang-outan qui est très habile, très curieux, n'enlève pas cet implant-là, pour pouvoir ensuite mettre ces implants-là sur leurs congénères sauvages et voir leur mode de vie. Qu'est-ce qu'ils font la journée? Où c'est qu'ils vont nicher? Comprendre mieux leur mode de vie et justement, on va dire, aménager les pratiques humaines, notamment dans les champs de palmiers à huile, pour dire, écoutez, les orang-outans, ils ne vont pas détruire tous les jeunes plants. On va essayer de les dissuader de venir quand les plants sont encore trop fragiles. Mais une fois que les arbres adultes, ils ne vont pas les détruire, parce que ce qu'il y avait jusqu'alors, c'était du braconnage. En fait, cet animal, il rentre dans notre champ de palmiers à huile. Qu'est-ce qu'on fait? On l'élimine. Donc voilà, il y a un gros travail qui a été fait, mais qui a nécessité d'avoir des connaissances sur le mode de vie des orang-outans et leur adaptation aux pratiques humaines localement à Bornéo. Il est important de rappeler aussi, quand on parle de conservation ex situ, d'élevage conservatoire, qu'il n'y a plus de prélèvement dans le milieu naturel depuis les années 70, depuis la signature de la convention dite de Washington, qui réglemente le commerce d'un grand nombre d'espèces animales. Donc, en gros, l'idée, c'est que toutes les espèces menacées dans leur milieu naturel, on en interdit l'export, mais de toute partie de l'animal. c'est-à-dire le cuir, les défenses. Et donc, voilà, même si la problématique ne venait pas forcément des eaux, on y est soumis et c'est très bien. Et du coup, on aide les autorités, d'ailleurs, à la mettre en œuvre. C'est-à-dire que lorsque les autorités, par exemple, en République démocratique du Congo, vont saisir des jeunes chimpanzés, on soutient des sanctuaires qui permettent aux autorités de placer ces jeunes chimpanzés dans de bonnes conditions, le temps de pouvoir les relâcher dans le milieu naturel. Parce que souvent, il y a des pays qui n'ont pas les moyens en face d'une application stricte de ces règles. Et voilà, ils vont agir, mais après, ils ne vont pas savoir quoi faire derrière avec les animaux. Donc, c'est là où les parcs ont un rôle aussi à jouer. Quand j'ai évoqué du coup le travail sur les calaos, sur les, en termes de conservation, sur les émetteurs aussi, en fait, ça aborde la question de la recherche en parc zoologique. On peut avoir de la recherche fondamentale, mais ce n'est pas celle-ci que je vais forcément mettre en avant. Ce qui m'intéresse, c'est la recherche impliquée, à la fois pour le bien-être de nos pensionnaires en parc zoologique, par exemple sur l'impact d'un changement alimentaire, donc d'avoir une orientation plus sur des légumes que sur des fruits pour baisser les quantités de sucre ingérées, voir l'impact sur le microbiote et sur le bien-être, essayer justement de dégager des analyses objectives sur est-ce que les animaux se sentent mieux, comment doit se passer la transition pour se faire en douceur, limiter le stress, les agressions entre individus, des diarrhées potentielles si on fait un changement trop brutal. Donc ça, c'est des éléments qui sont monitorés et qui amènent des changements de pratique dans l'ensemble des parcs zoologiques, mais également de la recherche appliquée qui vise à améliorer nos pratiques en termes de conservation. Je vais prendre l'exemple d'un protocole anesthésique pour les loups, les licaons. C'est un protocole BMM, en l'occurrence, c'est l'association de trois molécules avec des dosages bien spécifiques qu'on a mis en place et testé à la palmyre. Et donc, au fur et à mesure, on a pu affiner ce protocole parce qu'à la limite, le risque qu'on pouvait avoir, c'était une hyperthermie de l'animal. Donc un animal qui monte en température de manière importante, et ça peut laisser des séquelles. Mais c'est beaucoup plus simple chez nous quand, sur un climat tempéré, on a tout le matériel adéquat, les bâtiments aussi, pour pouvoir gérer ce problème-là, que quand on est au milieu de la savane africaine. Et la deuxième difficulté aussi, c'était le relâcher dans le groupe où les réveils étaient plus ou moins simples et où l'animal était plus ou moins en forme avec les anciens protocoles, et où on avait pu constater notamment des attaques par des congénères du fait que l'animal réveillé ait un comportement anormal. Donc, avec la mise en place de ce protocole chez nous, on a pu ensuite le transmettre à des vétérinaires en Tanzanie qui travaillent sur le licaon, justement, et qui avaient besoin de pouvoir anesthésier ces animaux, parce que ces animaux sont extrêmement puissants et dangereux si on veut les manipuler, donc ça se fait sous anesthésie, pour mettre de la pose de collier émetteur, comprendre un petit peu leur mode de vie, leurs traces, à quel moment justement ils peuvent perdre la vie pour mieux comprendre les menaces qui pèsent sur eux, mais aussi des colliers de protection. C'est-à-dire qu'ils ont des gros colliers en cuir assez larges avec plein de clous tout autour. Et en fait, l'idée, c'est de les protéger des collets. Les collets, c'est des pièges faits en fil de fer qui sont à la base posés pour chasser des petites antilopes. Et en fait, les licaons, en voulant chasser eux-mêmes les antilopes, suivent leurs traces et tombent sur ces collets qui les étranglent et en fait, quasi décapitent parce que du coup, l'animal se débat, c'est horrible. Donc, voilà. Alors, bon, déjà, c'est pas chouette pour l'antilope, mais en termes de conservation pure, il y a beaucoup plus important, enfin, le renouvellement des antilopes est beaucoup plus important que les licaons. Mais là, sur des prédateurs, lorsqu'ils meurent à l'âge de 3-4 ans et que c'est répété sur des groupes entiers, ça menace réellement l'espèce. Donc, voilà, ce protocole anesthésique a permis justement de participer du sauvetage du licaon en Tanzanie.
Et ces protocoles, ils sont encadrés par le vétérinaire, par les soigneurs de l'espèce en question. Ça doit être un peu intéressant quand ça commence.
Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a la posologie, c'est des ratios par rapport au poids de l'animal. C'est-à-dire tant de millilitres de cette molécule, tant de millilitres de celle-ci, tant de millilitres de celle-là, par rapport au poids de l'animal. Donc, par contre, avec les animaux sauvages, même en parc, c'est toujours la difficulté d'évaluer le plus finement possible le poids de l'animal. En humaine, on monte sur la balance, on connaît le poids exact de la personne. Quand on travaille avec les animaux sauvages, il faut avoir l'expérience. On a des tables en fonction de l'âge, en fonction de l'espèce, en fonction de pas mal de choses, mais après un moment, il faut faire un body scoring à l'œil pour l'évaluer au mieux. Et donc ça, il y a une formation qui est faite sur la transmission des infos. Après, ce protocole-là, il est utilisé par des gens qui sont déjà vétérinaires sur place, qui savent manipuler, ces produits. C'est une mission qui qui est assez intime hein, par rapport au parc et qui transcende les autres, c'est le bien-être animal. Et c'est vrai que c'est quelque chose dont on a peu communiqué pendant un temps, c'est-à-dire que à l'époque de mes grands-parents, il y avait beaucoup d'animaux qui étaient à la maison. Enfin, il y avait une passion, un amour vraiment charnel. C'était voilà des types chimpanzés, gorilles, orang-outans élevés à la main. Ils ont un nom. Enfin, il y a une attache qui est très forte. Et en même temps, il y avait déjà en tête l'idée que c'était pas des animaux de compagnie. Mais c'est sûr que c'est beaucoup plus dur. Et avec le recul, on s'est rendu compte que une imprégnation trop importante, ça posait des soucis. Un moment de réintroduction dans le groupe. Un chimpanzé qui a été élevé à la main, c'est génial, un humain, c'est hyper intéressant. Et il avait tendance à se désintéresser de ses congénères et à attendre que le soigneur revienne pour interagir avec lui ou mon grand-père. Ça fend un peu le cœur quand on voit que l'animal il passe plus de temps à nous attendre qu'à jouer avec ses congénères. Donc, fort de cette expérience-là, justement, on s'est détaché, essayé d'avoir une approche plus professionnelle. L'expérience aussi a permis de maximiser les chances d'élevage par les parents. Les connaissances se sont accrues. Mais du coup, même dans les images, on s'est un peu détaché en fait, de l'animal qu'on prend dans les bras, de la girafe, du guépard sur les genoux. Et je pense que dans l'esprit de certains, ça a été associé au fait de « ils n'aiment pas tant que ça les animaux parce qu'ils ne les prennent pas dans leurs bras ». Et du coup, beaucoup plus compliqué de parler de bien-être animal de manière objective, en tout cas de l'objectiver au maximum. Des fois, on a des retours du « Ah, on a vu dans ses yeux qu'il avait l'air malheureux. Ah, ou au final, j'ai vu qu'il était vraiment heureux. Là, on a croisé nos regards et j'ai vu que c'est extrêmement difficile. » Donc, on va s'attacher justement à qu'est-ce qu'un comportement normal. Ça ne va pas être la même chose chez un loup. D'ailleurs, selon son niveau hiérarchique, ça ne va pas être la même chose chez un primate. Les besoins non plus. Est-ce que c'est des mots sociaux, plutôt solitaires ? Selon l'étape de leur vie également, est-ce qu'au régime alimentaire c'est adéquat ? Est-ce que c'est des animaux qui ont besoin d'évoluer en hauteur ? Donc, pas mal de constance environnementale. Et en plus, maintenant, on faisait des analyses individuelles en termes de budget temps. Qu'est-ce que fait l'animal ? Bref, on va avoir des screenings de 10, 15 minutes, plusieurs fois dans la journée, sur des temps un peu longs, pour voir un petit peu ce que fait l'animal. Et voir si c'est des budgets temps qui sont cohérents par rapport à ce qu'on peut retrouver dans le milieu naturel. Et notamment, on s'est rendu compte que sur les chimpanzés, ils passaient trois fois moins de temps que dans la nature à chercher justement de la nourriture. Parce qu'on leur apporte sur un plateau, c'est tout prêt, c'est facile. Et donc, on a vraiment mis en place tout un travail en augmentant le nombre de repas. On réduit les quantités, couper en plus petits morceaux, disperser, amener un caractère aléatoire, choisir des contenants, pas toujours les mêmes, pas toujours aux mêmes horaires, pour justement reproduire. Ce temps, et puis justement limiter au maximum des comportements d'ennui négatifs, par exemple un surtoilettage. Donc on est vigilant à la fois sur les comportements positifs et négatifs. On évalue au mieux, et là on peut commencer à parler de bien-être animal de manière objective et de s'en saisir. Mais c'est vrai qu'on a été peut-être un petit peu dépassé il y a quelques années par des antisos qui, parfois à raison, hein, sur des institutions qui n'étaient pas du tout au niveau, mais souvent avec un manque de fondement scientifique derrière pour dire heureux, pas heureux, la question nécessite d'être creusée. En tout cas, nous, c'est la chance qu'on a, c'est qu'on a des, je pense pour le zoo de la Palmyre, mais pas que, des gens passionnés qui sont attachés quand même à faire au mieux pour leurs animaux. Ils sont là pour ça, c'est leur souci. Ils les voient au quotidien. Donc, c'est des personnes hyper précieuses qui remontent les besoins et que nous, derrière, on met en œuvre les moyens pour que tout se passe au mieux pour les équipes, pour les animaux. Donc, c'est ça qui nous anime.
Puis on avance autant sur les critères d'évaluation que sur les mesures au final. C'est aussi important quasiment.
C'est lié. D'ailleurs, si jamais on avance un peu trop sur l'évaluation et qu'on commence à avoir une liste de choses à faire qui s'allonge et qu'on ne va pas assez vite, ça crée rapidement de la frustration pour tout le monde. Dire non, attendez, on se pose là, il faut qu'on les mette en œuvre. Et donc là, d'ailleurs, en ce sens, on a renforcé notre équipe technique, justement, parce qu'on a pu constater que ça pouvait être un goulet d'étranglement sur certaines améliorations en matière de bien-être. Par exemple, laisser un accès libre la nuit à la totalité de l'espace. Ça peut être augmenter le nombre de repas, la complexité, etc. Ça, c'est le soigneur. Mais après, quand il s'agit de mettre des cordages, des tablettes, des nouvelles boîtes, des hamacs, là, on a besoin de l'équipe technique. Il y a pas mal de choses à faire et donc c'est pour ça qu'on a justement...
Merci en tout cas d'avoir partagé ça avec nos auditrices et auditeurs et puis qui sont ravis probablement d'aller venir voir en vrai, sur place, comment ça se passe.
Je l'espère.
Merci à Pierre Caillé, merci à Florence Perroux pour votre accueil au sein du zoo de la Palmyre. Merci aux soigneuses et soigneurs que nous avons pu rencontrer dans le cadre de ces reportages. Je tiens à remercier aussi Marilyn et Alice qui m'ont accompagnée pour l'enregistrement de ces émissions. et merci à Virginie pour la programmation. Personnellement, c'était une expérience très enrichissante, avec beaucoup de découvertes sur le monde du zoo que finalement je connaissais assez mal. Auditrices et auditeurs, j'espère que vous aurez pris autant de plaisir à écouter ces reportages que moi à les réaliser. Et c'est terminé pour ce programme en immersion au zoo de la Palmyre. Restez branchés sur D4B, les programmes continuent.
S'invente pas, je sais bien que c'est toi. C'est une façon comme une autre de voir la vie en rose. de supporter les choses. Ça ne s'invente pas.
Dieu a créé l'alcool pour que l'homme oublie sa femme.
Ah ouais. Ah ouais, sûrement, monsieur Fougas.
D4P.
Passent les jours et les saisons, frappe la pluie sur les wagons, la mer du Nord en ligne de mire. Triste à mourir, on sait pas tellement raconter. Allez venir, comment c'était? Moi je suis pas, puisqu'il faut dire. Triste à mourir. Deauville à Paris. Fini, t'as dit. Mais je l'aimais pas, moi. De toute façon, ta Normandie. Voilà, c'est dit. La nuit, je sale pas mon oreiller. Le jour, j'ai pas les yeux iodés. Hier, je coule pas dans l'eau du soir. Demain, c'est pas la mer à boire. Comment tu me couches, j'ai pas aimé. Comment ta bouche quand t'es mouillée. Comment au front tes boucles blondes. Comment au bec. Beaucoup trop de blondes, Deauville et Paris. Fini, t'as dit. Et si je l'aimais, en fait, ta Normandie. Si c'était dit, t'as dit mon nom, qu'est-ce que c'était? Quand j'ai dit le tien, j'étais tombée. C'était une chute, mais en volant. T'es pas sonné, toi, finalement. Tombé à terre, mais vers le ciel. Effets spéciaux, j'avais des ailes. Comme si filmé sur un fond vert. La tête en bas, le cœur en l'air. Et la nuit, je sale mon oreiller. Et le jour, j'ai les yeux iodés. Hier, je mis le doigt dans le tussoir. Demain, c'est l'océan à boire. Comment tu me couchais, tout aimé. Comment ta bouche, quand t'es mouillée. Comment front, tes boucles blondes. Comment bec, beaucoup trop de blondes. Normandie. Voilà, c'est dit. C'est dit, si une nuit, la mélancolie te donnait envie du petit train Deauville-Paris au petit matin. Ou si une nuit dans ta maison, t'oubliais la fille des avions. Et que mon parfum flottait dans l'air. Je t'en prie, compagnie de chemin de fer.
Moi je vais m'asseoir sur un banc 100 minutes avec vous. Sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Et donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. entendre ton rire qui désarde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu comment j'étais minot, les bons becs fabuleux qu'on piquait chez le marchand, car en sac à minto, caramel à un franc et les Mistral gagnants. À marcher sous la pluie, 5 minutes avec toi, et regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre en te pouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu. Et sauter dans les flaques pour la faire au râler, bousiller nos godasses et se marrer. Et entendre ton rire comme on entend la mer s'arrêter, repartir en arrière. Raconter surtout les carambars d'antan et les cocos bohèmes et les vrais roudoudous qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents et les Mistral gagnants. Sur un banc, 5 minutes avec toi, regarder le soleil qui s'en va. Te parler du bon temps qui est mort et je m'en fous. Te dire que les méchants c'est pas nous. Que si moi je suis barge, ce n'est que de tes yeux, car ils ont l'avantage d'être deux. Et entendre ton rire s'envoler aussi haut que s'envolent les cris des oiseaux. Te raconter enfin qu'il faut aimer la vie, aimer même si le temps est assassin et emporte avec lui les rires des enfants et les Mistral gagnants. Et les Mistral gagnants.
Tous ses copains du cirque forain, pas un n'avait dit au vieux funambule qu'il était aussi parfois somnambule. Ça n'aurait servi strictement à rien. Le public partit, la lune dehors, à travers les trous de la vieille toile, allumait un ciel tout rempli d'étoiles. Le vieux funambule arrivait alors. Qui n'était pas tellement sûr de lui, qui avait mal aux reins, qui avait des vertiges, était tout changé, c'était un prodige. Oui, c'était vraiment le jour et la nuit. Plus besoin d'ombrelles ni de balancier, les sauts périlleux devenaient faciles. Il était gracieux, il était agile, comme un demi-dieu sur son fil d'acier. Et ce fut ainsi qu'un enfant le vit, un enfant puni ou un fils de pauvre, qui s'était glissé dans l'odeur des fauves et le regardait d'un regard ravi. Spectateur fortuit de ce numéro, l'enfant applaudit à tant de merveilles, mais un somnambule, quand on le réveille, comme un funambule, ça tombe. Du cirque forain, pas un n'avait dit au vieux funambule qu'il était aussi parfois somnambule. Les gens du voyage sont des gens.
Que 7 merveilles du monde sur la terre, cela ne vaudrait pas la peine d'y aller voir. Jacques Prévert.
D4B. Moscou, Arabi, happy, happy, bisou. French kiss is for a rendezvous. Russian kiss, no taboo. Afro kiss, a kiss again in Moscou, Arabi, happy, happy, bisou. French kiss is for a rendezvous. Russian kiss, no taboo. Mon kiss, c'est barlou. Mon kiss, c'est marlou. Mon kiss, c'est un casque qui passe et repasse partout. Qui glisse en las, relasse, coule dans le cou. Insiste comme un sale gosse qui galoche dans la gadoue. Mon kiss, un fils de patin, trottoule comme une tartatin. Mon kiss, te roule une pelle comme le ciment, colle sur le parpaing. Un sale béco, un douce mégot, une langue de veau. Un rouleau compresseur qui jamais prend de râteau. Afro kiss, a kiss again à Moscou. Arabi, happy, happy, bisou. French kiss. Gain a Moscou, Arabi, Habi, Habi, Bibi, Bibi, Zou. French kiss is for a rendezvous. Russian kiss, no taboo. Mon kiss te kill, miss. Mon kiss requis, bis. Mon kiss castagne la bise et te brise le cou. Mon kiss c'est Kill Bill. Mon kiss c'est Kung Fu. Mon kiss c'est Love and Peace comme Mannequin Peace partout. J'kiss comme Brejnev, qu'embrasse Ceausescu. J'kiss comme Khrouchtchev avant de te mettre au trou. J'kiss le chaos politique à coups de marteau. Le Russian kiss again à Moscou. Russian kiss. Russian kiss. Russian kiss. Kiss Russia. Kiss, kiss Russia. Kiss, kiss Russia. Kiss Russia. Russia. Kiss, kiss Russia, kiss Russia, kiss Russia, kiss, kiss Russia, kiss, kiss Russia, kiss Russia, kiss Russia, kiss, kiss Russia, kiss, kiss Russia, kiss Russia. Afro kiss, a kiss again in Moscow. Arabi, happy, happy, baby, zoo. French kiss is for a rendezvous. Russian kiss, no taboo. Afro kiss, a kiss again in Moscow. Arabi, happy, 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 baby, zoo. French kiss is for a rendezvous.
façon d'avancer. Cherche une place, elle est là au soleil.
On le peut, on peut faire autrement. On est différent, y a pas de délai, pas de coup d'essai.
Je l'avais dit.
Et on peut, c'est si facile. Danser un ballet, violoncelle et archet, marcher sur un fil. Et on court vers les plus belles îles. C'est alors que nos rêves sont devenus concrets en un battement de cils.
Fini la grisaille, le béton, moi je me taille. Je veux une place au soleil, les doigts de pied en éventail. Oublier le quotidien qui me tient par la main. Briser la routine pour de nouveaux chemins. On t'emmène, rejoins-nous, on est là, pas bien loin. On paraît un peu fou, mais t'inquiète, tout va bien. Brahbabi, coup de fatal, mi casa, tout casa. Du soleil, on t'en donne même si on se connaît
si tu
pas.
Cherches une place. Elle est là au soleil. Oh 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 oh. Elle est là, si tu cherches une place. Elle est là au soleil. Oh 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 oh. Elle est là,
un jour la caresse d'une bise sur le visage. Brise ta routine, te fait prendre le virage. Tracer la route, croire au mirage, emprunter le sentier étroit des idées larges. Et crois-tu vraiment que les reflets de l'argent t'éblouiront, te réchaufferont autant que les rayons bienveillants du grand disque? Allez, sors de la zone de confort, viens prendre le risque. Quittons la ville et ses sillolettes. Stop, le jogging au bord d'un périphérique. Bye bye, le système, le see you later. On va chercher un rôle plus exotique.
Si tu cherches une place, elle est là au soleil. Elle est là, si tu cherches une place, elle est là au soleil. Oh 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 oh, elle est là, elle est là.
Elle est là où tu vas, elle est là où tu veux, où tu te poseras, où le ciel sera bleu, où tu mettras en scène un monde merveilleux. Un monde de lumière, d'extase et d'amour. Un monde sans barrière, un monde sans vautour. Et tu prendras la peine de rêver en plein jour.
Elle est là, là où tu veux aller. Là où tu couleras comme une eau des vallées pour inonder les haines.